Dis papa, c'est quoi le métal?
Métal la la, métal la 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 la, métal la 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 la, la 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 la, métal la 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 la, métal la 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 la, métal la 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 la.
L'histoire du métal sur TZ Fiche Radio.
Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission en pleine période de fête. J'avais qu'à la faire avant en même temps. Je vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Noël est déjà passé, donc un premier de l'an qui se rapproche. Et on va fêter ça dignement avec une émission, somme toute une première partie traditionnelle sur le contenu, puisqu'on va continuer sur l'histoire du métal. Et par contre après, nous allons avoir un super bonus. Puisque pour fêter le mi-parcours entre le Hellfest 2016 et le Hellfest 2017, je vous propose la conférence de presse de Megadeth, qu'ils ont tenue au Hellfest 2016, que j'ai fait traduire par ma petite sœur. Merci petite sœur. Et du coup, je vais vous diffuser ça tout à l'heure, une interview d'une vingtaine de minutes, me semble-t-il. Voilà, donc restez bien avec moi, vous avez un super bonus à la fin de l'émission. Alors, l'émission a de ça de spécial aussi que je change ma méthode de travail. Là, je suis à l'extérieur. Il fait 3 degrés, mais il fait beau. Donc, vous allez peut-être entendre les oiseaux, des véhicules passer. C'est pas grave. J'ai envie de faire ça comme ça aujourd'hui, de profiter du beau temps. Et on va donc s'attaquer tout de suite à l'histoire du métal. La dernière fois, nous nous étions rendus avec les genres de métal dans les années 90, si vous vous rappelez bien, avec les deux derniers qu'on a vus, le hardcore, et le métal progressif. Donc, je vous ai promis de passer sur le métal industriel. Parce que quand on parle du métissage du métal, avec le funk, le rap, le punk ou le rock progressif, certains ne s'arrêtent pas là, et se tournent, eux, vers la musique industrielle des années 80. Le rock bruitiste du Velvet Underground, le rock industriel de Throbbing Gristle, Young Gods et Einsurzeinde, Neubutton, je vous raconte pas le nom des groupes, c'est génial, avec leur mélange de punk rock et de bruit de machines, d'objets industriels, visaient à immerger l'auditoire dans la réalité d'une société froide, mécanique et industrieuse. Plutôt que de produire de jolis sons agréables, on essayait de reproduire la bande-son de notre société déshumanisée afin d'opérer une prise de conscience des réalités. Le métal, ayant par certains côtés pour objectif d'être le reflet de la violence humaine, y trouvera un terrain propice à l'expression de sa noirceur. Récupérant les influences industrielles en les plaquant sur des rythmiques trash, le groupe Ministry créa le métal industriel. Les groupes majeurs du genre sont Ministry, Scorn, Treponem Pall ou Marilyn Manson, Berk. En perpétuelle évolution, le genre va se diversifier au cours de la décennie, se teintant de death avec Fit Factory ou de rock gothique avec Rammstein et Marilyn Manson. Le genre suivant, le power metal, se voit dans la période une progressive disparition du heavy, du thrash et du speed, devenus très commerciaux, pas assez créatifs. Mais certains groupes ont poursuivi dans la voie, anciens ou nouveaux. Il y a encore une fois une différence entre la scène américaine et la scène européenne. On distingue ainsi le power metal américain du power metal européen. D'abord, l'européen, puisque l'Europe était, on l'a vu, la terre de prédilection du heavy metal dans les années 80. Les Iron Maiden, Halloween, Manowar ou Dio refusèrent de suivre la surenchère de la violence extrême, tout autant que la dérive hard FM américaine. Alors, je fais une petite parenthèse, parce que je lis ici Manowar, pour moi ce sont de bons américains, mais bon. C'est pas moi qui sais, hein, c'est toujours notre site toftaki.wordpress.com qui nous explique l'histoire du métal, que je vous narre pour vous éviter une trop longue lecture. C'est beaucoup plus agréable comme ça, mais bon. Donc on va rester sur ce qu'ils nous disent. Mais donc du coup, ces groupes poursuivent donc leur chemin en se disant les acteurs du true metal, le vrai métal. Ils continuèrent donc à produire du heavy metal traditionnel, suivi en cela par un public de fidèles passionnés, notamment en Allemagne et en Angleterre. Point commun de tous ces groupes, les thématiques. Saga historique, épopée médiévale, mythe celtique. Les compositeurs s'inspirent aussi de la littérature fantastique, heroic fantasy, de cinéma de genre également. On navigue dans des univers ou dans des mondes guerriers comme celui de Conan Barbare. Durant les années 90, le genre va évoluer peu à peu vers ce que l'on peut décrire comme du metal symphonique. En effet, poursuivant la démarche de Ritchie Blackmore, premier musicien de métal à intégrer les éléments classiques dans leur musique, les Stratovarius, Ice Earth, Camelot, Luca Turilli composent un heavy metal mêlant piano, violon, clavecin, flûte, chœur classique et instruments électriques saturés. Souvent amateurs de classique, sortant des conservatoires, ils mettent à profit leurs connaissances musicales pour créer des symphonies métal. Dans ces thèmes classiques, inspirés des grands compositeurs, les guitares s'affrontent en un déluge de notes. Les chanteurs vocalisent sur plusieurs octaves des chants emphatiques. Les arrangements sont sophistiqués et le son particulièrement soigné. Mis à part la puissance développée, on est loin du power metal américain. Petite pause musicale sur ces deux genres. On va partir plutôt sur le power metal. Je vous laisse découvrir le groupe. Moi, c'est tout bête, hein. J'ai quasiment commencé le métal avec ça. Je vais vous mettre un coup de Manowar et on se retrouve après.
Take the field.
c'était donc Manowar. Alors, un petit genre suivant, le métal gothique. Le mouvement gothique est à son apogée dans les années 80. Les groupes comme Bauhaus, Christian Death, Sister of Mercy récupèrent l'imagerie de la période gothique médiévale, les gargouilles, le millénarisme, la sorcellerie, le romantisme, la littérature décadente et fantastique, comme Baudelaire, et l'expressionnisme allemand. De cette synthèse sort une musique noire et sombre, posée sur des textes poétiques et mélancoliques. Les sentiments sont exaltés, la sensibilité exacerbée. Le mouvement goth s'appuie sur une esthétique embrassant tous les arts. Une culture gothique naît avec ses réseaux underground, touchant l'architecture, la mode, le design, la musique, le cinéma, faisant de ce mouvement le plus riche culturellement depuis l'expressionnisme. À l'affût de champs d'expérimentation nouveaux, le métal va aussi s'engouffrer dans la nébuleuse goth. Les thématiques sombres et glauques du métal vont s'y fondre à merveille. Cela va marcher d'autant mieux que le rock gothique s'essouffle dans les années 90. Il tourne en rond et laisse ainsi la place à la nouveauté. Parmi les premiers à mêler métal et rock gothique, Type O Negative. Leur premier album est un parfait exemple de métal gothique. Rythmique de guitare lourde à la Black Sabbath. Ambiance pesante, mise en relief par des nappes d'orgue tragiques. Voix caverneuses et dramatiques. D'autres groupes suivront dans leur style. Certains retiendront plus le côté dansant de la musique goth, comme Paradise Lost et son gothic pop metal. D'autres, beaucoup plus médiatisés et plus populaires, vont s'inspirer de la part atmosphérique et éthérée de la musique gothique, comme les Cocteau Twins. Produisant un metal gothique atmosphérique, les groupes, emmenés par des chanteuses à la voix cristalline et lyrique, comme Lacuna Coil, Nightwish ou Within Temptation, connaissent actuellement un succès qui dépasse le milieu des fans de métal. Numéro 8, le néo-métal. C'est un autre genre qui cartonne commercialement, même hors du milieu métal. Poursuivant le métissage entamé avec la fusion et le rap métal, le groupe Korn fait sensation en 1994 avec son premier album éponyme. Korn profite de la mort du grunge pour imposer son mélange de fusion et de power metal américain sur des paroles tournant autour du malaise essentiel adolescent. La basse est mise en avant, comme dans la fusion, mais les instruments sont accordés très très bas. Les rythmiques sont lentes et syncopées. Le chanteur alterne entre chants clairs et saturés, gémissements et grognements. De crescendo en décrescendo, le néo-métal installe une atmosphère intense et tendue. Ce genre de musique, plus accessible car moins violent, connaît rapidement le succès. Des groupes fleurissent partout. Deftones, Incubus, Cold Chamber, Playmo ou Mass Hysteria en France. Très lucratifs, ces groupes sont bien vite récupérés pour être orientés de plus en plus vers le grand public en coupant encore une fois la base métal. La plupart de ces groupes jouent désormais de la variété pop pour le plus grand bonheur du portefeuille de leur maison de disques. Seuls quelques groupes perpétuent le genre, comme Slipknot, dans un registre plus brutal, ou System of a Down, qui mélange musique traditionnelle, pop, thrash et fusion. L'ennemi tous ont également sombré dans la facilité, mis à part les prometteurs Heads. Alors, on nous parle de groupes commerciaux, de choses comme ça, dans le néo-métal, de sous, du gros sous-sous-you, comme on dit. On va s'écouter un petit Incubus, tiens, pour illustrer tout ça. Et on se retrouve après pour le Doom Metal. Meet me in outer space. We could spend a night, watch the earth. Start. C'était donc Incubus. Bon, j'ai profité de la pause musicale pour me radiner chez moi. Ça meule, chers amis. J'ai les doigts comme des saucisses congelées de chez un industriel bien connu. Alors, le genre suivant, le doom metal. On se souvient que le mouvement punk avait plus ou moins mis en retraite les grands groupes de hard rock. Cependant, beaucoup de groupes continuaient à produire un hard rock dépouillé, digne de Black Sabbath. Le tout dans un relatif anonymat. On classait ces groupes dans un genre appelé doom, niche assez particulière, connue des seuls amateurs. Dans les années 90, ce genre prend un peu plus d'importance avec l'apparition de groupes talentueux comme Crowbar, Cathedral ou certains albums de Paradise Lost. Si Black Sabbath avait posé les limites du genre, l'amélioration des matériels d'enregistrement et de sonorisation permirent au groupe d'aller bien plus loin dans la lourdeur et la pesanteur de leur musique. Certains albums de doom sont effarants tant la musique transpire le désespoir. Le travail sur le son donne un côté claustrophobique, proprement effrayant, ce qui est pour beaucoup dans le succès de ce sous-genre à l'intérieur du milieu métal. Le genre suivant, le stoner. Coco Pix, le stoner c'est ton truc, hein, je crois. Encouragé par le succès du grunge, qui montre qu'un groupe de rock de guitare peut à nouveau marcher, inspiré par la démarche passéiste du doom, de nombreux musiciens métal se tournent vers les années 70. Comme les groupes de doom, les musiciens de Kiss sont fascinés par les tempos lents et lourds de Black Sabbath. Mais ils ne s'arrêtent pas à cette influence. Désireux de jouer une musique flamboyante et psychédélique, ils y ajoutent des influences de Led Zepp et de Pink Floyd, entre autres. Décidés à jouer comme si les années 80 n'avaient jamais eu lieu, ils jouent ces instruments d'époque, mais enregistrent dans des studios modernes, ce qui leur permet d'avoir le son d'un Led Zepp avec la puissance d'un Slipknot. Parmi les derniers arrivés dans la nébuleuse métal, des groupes stoner connaissent le succès, et des groupes comme Queens of the Stone Age vendent beaucoup de disques sans pour autant jeter leurs principes aux orties. Dans le même genre, nous pouvons retrouver Monster Magnet, qui est aussi un groupe assez connu dans le genre. Moi, j'ai envie de vous faire écouter. Je vais peut-être me faire engueuler en disant qu'on est dans le thème. Mais j'ai envie de vous faire écouter quelque chose que j'adore beaucoup, c'est Sun Vitus. Donc je vous fais écouter Sun Vitus et on repart faire un tour dans les looks et les influences de ces années 90.
Open my Dankeschön. All right. Well, it's indeed a pleasure. It's a pleasure to be here.
Et voilà, Saint Vitus. Moi j'adore, ça claque. Et dans le psychédélique, on y est quand même. Hein. Nous voulions donc parler des influences dans les années 90, très bien. Le look d'abord, parce que les décennies passent et les looks évoluent. Ils évoluent peu, pour des genres déjà existants. Donc, les nouveaux styles musicaux voient quelques innovations. Dans la fusion et le rap metal, l'influence afro-américaine se fait sentir. Les pantalons s'élargissent et les cheveux raccourcissent. Les looks sont plus variés. Dans le hardcore, l'influence punk est indéniable. Tatouages, cheveux rasés, vêtements noirs ou kaki militaires. Dans le métal progressif, les looks sont assez soignés. Hein. Les pantalons sont en cuir, les chemises et les cheveux sont longs mais bien coiffés. Dans le power metal US, le look est plus grunge. Les jeans sont déchirés, les chemises sont des chemises de bûcheron, et les crânes sont plutôt rasés. Dans le power metal européen, le look est en raccord avec la musique grandiloquente, les chemises à jabot, les corsaires, les pantalons et les bottes de cuir. Chez les gothiques, tout est noir. Les redingotes, les chemises, les pantalons très 19e siècle. Ou alors tout de cuir, genre guerrier nordique. Les visages sont souvent maquillés en noir et blanc. Les femmes se vêtent de longues robes noires ou pourpres, agrémentées de pendentifs, les faisant ressembler à des princesses médiévales. Le public, souvent très jeune, suit attentivement la mode. Les vêtements, cheveux noirs, du velours, du dentelle pour les filles, cuir et clous pour les garçons. Dans le néo-métal, les cheveux sont souvent portés en dreadlocks, comme les rastas, ou alors se portent courts sous une casquette. Les vêtements sont récupérés sur la mode des skateboarders, les jeans larges, les chaussures de skate, les suites. Les grandes marques de vêtements de sport sont plébiscitées. Et dans le stoner, évidemment, retour aux années 70, des jeans pas de def, des chemises psychédéliques et des vestes en cuir. Mais les fans n'ont pas vraiment les looks distinctifs. Pour ce qui est de l'attitude, peu de choses évoluent dans l'attitude des groupes sur scène. Et dans le comportement du public. Seuls trois genres sortent un peu du lot, le hardcore, le néo-metal et le gothique. Dans le hardcore, avec ses origines punk, les musiciens ont retenu une farouche volonté d'indépendance, ainsi qu'un point de vue très critique sur la société. Mais ils mettent de côté le nihilisme, le pessimiste punk, qui menait in fine au je m'en foutisme. Tout d'abord, on l'a vu, le milieu hardcore se constitue en réseau indépendant de grands médias. Question de cohérence par rapport aux propos anarchisants développés dans les textes. Partant du principe intelligent que pour changer le monde, il faut changer soi-même, chacun va s'astreindre à une hygiène de vie stricte. Ainsi naît le mouvement Straight Edge. Éthique positive, opinion politique radicale, on exclut la drogue, l'alcool, la viande. On valorise le travail honnête, une hygiène de vie saine. En fait, le principe est que si tout le monde agit de façon positive, les choses peuvent changer. En cela, le mouvement s'oppose au chaos punk et à l'indolence hippie. En concert, cela donne de véritables performances. Des musiciens sains de corps et d'esprit se donnent à fond. Très discipliné, le public hardcore Pogot et slam, très peu, concentré qu'il est sur l'énergie déployée sur scène. Bien sûr, l'idéologie straight edge n'est pas suivie à la lettre par tous les groupes ou les fans. La plupart des groupes y ajoutent tout de même une bonne dose de fun pour éviter de tomber dans un fascisme d'extrême gauche. Quant au néo-métal, aux antipodes du hardcore, le néo-métal est gangréné par le marketing, la pub, les grandes marques. Ce qui en fait aujourd'hui un pur produit commercial. Ce que l'on peut retenir de ce genre, c'est qu'il ouvre la porte aux jeunes filles. Le genre est assez mixte au point de vue du public, notamment grâce à l'absence de jeux virils genre Pogo. Pour se défouler, les fans jump. Ils sautillent gentiment en rythme avec la musique. Les musiciens font de même, le visage penché sur leurs baskets, cet air un peu bossu leur donnant une allure d'adolescent lymphatique. Eh ben dis donc, notre ami n'est pas très gentil avec le néo-métal. Et le métal gothique donc, ce qui saute aux yeux, c'est la présence de femmes à l'intérieur des groupes. Jusque-là, à part quelques exceptions notables dans le hard FM américain, le métal était un genre plutôt masculin. Peu à peu, les choses changent et les femmes apparaissent même dans des genres très violents. Le métal gothique, les attitudes sont très mélancoliques et affectées. Petite pause musicale, je vais vous faire une surprise. Je vous mets une chanson, vous avez le temps de la chanson pour trouver, et je vous donne la réponse après. Formidable. Allez, on écoute et on a la réponse dans quelques minutes.
Am I brave enough? Am I strong enough to follow the desire that burns from within? Push away my fear to stand where I'm afraid. I am through with this, 'cause I am more than this. I promise to myself, alone and no one else. My flame is rising high.
Félicitations à tous les auditeurs qui ont reconnu Alan Storm, I am the fire. Ouais, j'ai choisi ça parce que bon, ben, il y a une demoiselle dans le groupe, hein, on vient d'en parler, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Alors, ces années 90, elles ont bien des influences aussi, parce que comme dans les années 80, les influences croisées entre la musique, le cinéma, la BD et la littérature se poursuivent. Eh oui, dans les genres plus récents, Notons dans le power metal européen la prédominance des thèmes fantastiques ou d'heroic fantasy à la Tolkien. On parle de donjons, de dragons, de princesses. Les gothiques, eux, piochent dans le riche terreau culturel qui fonde le genre. En ce qui concerne la fusion du rap metal, les discours des mouvements d'émancipation des minorités américaines servent de base aux textes enflammés des Living Color et autres Rage Against the Machine. Discours très sociaux, revendications où l'on sent l'influence de la dialectique marxiste chez certains groupes hardcore. Chaque genre du métal possède ses références. Cela clôt quelque peu le débat sur la pseudo-stupidité de ce milieu. Pour conclure, des années 90, on assiste à un double processus. D'une part, toute une partie de la scène métal se commercialise plutôt bien. Le genre est passé dans les mœurs. Les artistes les plus populaires passent à la télé et à la radio. Pendant ce temps, la frange authentique du métal cherche une porte de sortie dans son évolution vers un métal extrême. Elle la trouve par le biais d'un intense métissage avec d'autres genres musicaux, phénomène qui se poursuivra jusqu'aux années 2000. À la fin de la décennie, la scission est bien visible entre une scène médiatisée très commerciale et la vraie scène métal, créative mais souterraine, distribuée dans ses propres réseaux. L'avenir paraît relativement serein dans le genre, car il paraît évident, que les deux scènes se nourrissent l'une l'autre. Et voilà, donc du coup on vient de terminer les années 90, et on va se retrouver la prochaine fois, ce sera pas début du mois, évidemment, avec le décalage, je vais essayer de vous faire ça pour la mi-janvier. On va se retrouver avec le métal d'aujourd'hui, avec ses particularités, les guitares héros, les mouvements actuels, voilà. En attendant, le petit bonus que je vous avais promis à mi-chemin entre 2016 et 2017 concernant le Hellfest, rendez-vous incontournable pour moi en tout cas, je vous propose donc une interview exclusive, enfin exclusive non, parce que ça fait 6 mois qu'elle est sur les médias informatiques et internet. Mais par contre, bon, bah voilà, je l'ai fait traduire pour vous. Hein, j'ai fait comme pour l'interview de Judas Priest, qui est d'ailleurs toujours en podcast sur la page de Metal Histories. J'ai fait un petit doublage. Comme ça, ça vous permet de suivre un peu le genre de discours que peut tenir Dave Mustaine et son équipe. Voilà, donc bonne fin d'année 2016 et à l'année prochaine pour la suite de notre émission. À la fin de l'interview, évidemment, de Megadeth, je mets un petit tube de Megadeth. Vous inquiétez pas, tout est prévu. Je vous dis à bientôt. Voilà, je conclus, je me tais et je vous dis à la prochaine. Salut. Il y a eu des événements tragiques, la disparition de Nick Menza. Il y a un concert caritatif organisé pour sa famille. Pouvez-vous nous dire plus sur votre participation dans l'organisation de cet événement pour lui et sa famille? Salut tout le monde, merci d'être venu ici aujourd'hui. Nous espérons que vous passez un bon week-end et que vous vous amusez bien. Quand nous avons appris la disparition de Nick, nous n'avons pas pensé utiliser cette information pour nous faire de la publicité ou autre chose. C'est plus un sentiment de vouloir faire quelque chose pour la famille de Nick et pour son héritage. Quand on a su pour Nick, David m'a dit que sa famille était déjà en train d'organiser quelque chose. On s'est dit qu'il y avait besoin de notre aide, c'était super, et que si ce n'était pas le cas, encore mieux, mais s'il changeait d'avis, on serait là. Nick avait beaucoup d'importance pour nous. Il comptait énormément pour quiconque est un fan de Megadeth. De plus, beaucoup de batteurs du métal ont été inspirés par Nick. Il sera chèrement regretté.
Hi guys, thank you for coming. It's
Merci d'être venu, c'est un plaisir de vous recevoir. J'avais une question sur votre vie en tournée, sur les tournées de Megadeth. Comment faites-vous pour garder autant la forme? C'est une question pour tout le monde. On a pris du très bon café. C'est vrai? Oui, on a une bonne hygiène de vie et beaucoup de bon café. Je connais ce gars depuis plus de 20 ans, donc deux questions. Est-ce que cela vous fait du groupe aujourd'hui? Et deux, est-ce énorme d'être le batteur du groupe Megadeth? C'est très excitant, un honneur. Merci les gars d'être venus. Je suis de Casablanca au Maroc. Avez-vous déjà été en Afrique ou au Maroc? Nous n'y sommes encore jamais allés, ni en Afrique, ni au Maroc. Je n'ai même pas mangé marocain. Donc, si vous avez l'occasion, nous serons ravis de vous recevoir. Peut-être un jour, je pourrai vous emmener chez moi. Est-ce que c'est une invitation? Je vais en parler à mes amis. Ils organisent un festival là-bas. On vous donnera le meilleur qu'on a. Ce serait génial de vous recevoir. Merci, c'est en fait le seul continent où nous ne sommes pas encore allés. Juste quand on se disait qu'il n'y avait nulle part ailleurs où jouer, une opportunité se présente. Du coup, ma première question... sur votre passé avec Megadeth et quelle était la vie des fans? C'est à moi que vous adressez? You talk to me? Je suis vraiment désolé. Ouais. Je ne réponds pas aux questions sur Metallica. Ouais, c'était une mauvaise plaisanterie. Est-ce que je suis satisfait? Je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. On commence tout juste à voir ce que cela donne et nous jouons quand nous jouons ces chansons. On s'améliore quotidiennement. On verra bien où cela nous mènera. Une question pour Dave. Avez-vous déjà pensé à d'autres chanteurs potentiels pour Megadeth? Oh oui. Je ne voulais pas chanter. Le dernier chanteur que David et moi avons auditionné avait un pack de bière avec lui et du eyeliner tout autour des yeux. On a dit qu'on ne pouvait pas avoir un mec avec du eyeliner dans le groupe, alors qu'on a bu toutes ces bières et on lui a dit de dégager. Qui sait? Peut-être que s'il n'avait pas porté d'eyeliner, il aurait fait partie de Megadeth. Je suis Axel de Metal Magazine. Dystopia est le meilleur album de Megadeth de la décennie, tout comme Super Collider. Quel était votre but en écrivant cet album? Notre but, quand on a fait un nouvel album, est de surpasser le précédent. Chaque fois que l'on fit un album, c'est comme une représentation de notre vie à ce moment-là. Pendant cette période, nous avons vécu beaucoup de mauvaises choses. On a dû appréhender l'Alzheimer de ma belle-mère. On a eu beaucoup de problèmes avec nos line-up, avec les membres de notre équipe, notre direction. J'ai toujours partagé ce qu'il se passait, car je ne veux pas que nos fans ne sachent pas comment gérer certaines situations. Si je ne partage pas, comment moi je les ai gérées. Pendant l'enregistrement de cet album, après la mort de ma belle-mère, il était temps que je remette au travail. Et c'est ce qui s'est passé. On est parti en studio et on s'est dit on y va. Vous avez été dans Megadeth depuis 35 ans. Avez-vous réalisé tellement de choses? Qu'est-ce que vous pensez de la plus grande réussite de Megadeth à ce jour? Vous avoir ici, tous, nous avoir après 35 ans d'existence démontre que l'on compte toujours pour vous. Quand on a commencé à faire de la musique, je n'aurais jamais pensé que cela me plairait autant. et que ça a duré aussi longtemps. Je pense que la meilleure récompense pour nous, c'est quand on regarde le public du haut de notre scène et qu'on les voit sourire et chanter. Alors on sait qu'on rend les gens heureux et je pense que c'est ça la plus grande réussite que l'on puisse avoir. Bonjour Dave. À propos de votre setlist, est-ce que votre setlist vient plus de l'album Dystopia ou plus de morceaux classiques? Alors, à noter qu'ils n'ont pas encore joué au moment de l'interview. Hein. Bon. On a une heure pour jouer ce soir. C'est ça, non? Une heure, je pense. Donc on va jouer 5 morceaux de Dystopia, comme c'est notre tournée actuelle. Sinon, ça va dépendre du set que l'on nous donne. Et on ajustera les chansons. Les chansons de Dystopia que l'on jouera selon le temps. Certains morceaux de Dystopia sont assez agressifs, comme The Treat Is Real et Fatal Illusion. Et certains sont plus mélancoliques, comme Poisonous Shadows. Nous avons une grande diversité dans cet album. Ça dépend vraiment de notre temps de passage. Bonjour Dave. À part être un super fan de Megadeth depuis plus de 20 ans, je suis aussi un grand fan d'Angra. J'aurais deux questions. Quelle différence vous pensez que Kiko apporte à la musique normale? Et j'aimerais aussi savoir si vous avez déjà écouté la musique d'Angra. Je répondrai à votre deuxième question d'abord. Oui, j'ai entendu la musique d'Angra. J'ai développé un attrait particulier pour la performance et la musique de Kiko. Et pour votre première question, quand Kiko est arrivé dans le groupe, c'était marrant parce que le nom de Kiko était sur quelques listes et Kiko ne sonne pas comme un nom brésilien, ça sonne plus finlandais. Je regardais son nom et je regardais tous les autres noms et je me suis dit que ce gars était finlandais. Je regardais plusieurs fois les listes et je le rencontrais enfin et je me suis dit « Waouh, ce gars est vraiment super !» J'ai appelé Dave et je lui ai dit que Kiko était le mec qu'il nous fallait. Et il m'a dit « Oh oui, j'ai oublié de t'en parler !» C'était après que j'interviewais 20 joueurs de guitare. Donc c'était vraiment bien qu'on s'est réunis pour la première fois dans le Tennessee. Nous n'avons même pas joué de la guitare. On a juste passé du temps ensemble parce que je savais qu'il était bon et connaissant mes capacités. C'était plus une question de voir comment on s'entendait au niveau personnel. Aviez-vous un rituel avant de monter sur scène? A-t-on un rituel avant de monter sur scène? Vous voulez dire, à part sacrifier des bébés? Salut les gars. Quel est de nos jours le message que Megadeth veut diffuser avec sa musique, les paroles, son attitude? Quel est le grand message que vous voulez transmettre? Je pense que quand on entend les gens chanter tous les soirs The Treat Is Real et qu'on joue Post-American World, pour moi ces chansons me rappellent notre album Peace Sells en 86. Quand on les joue, pour moi le message n'a pas changé. C'est toujours le même message parce que les gens ne changent pas vraiment. Cela a toujours été le même durant nos 3 décennies ensemble. C'est vraiment cool que l'on ait le même message et que l'on peut s'imprégner à chaque fois que l'on fait un nouvel album. Avez-vous un conseil, ou plusieurs conseils, pour les jeunes qui commencent un groupe de thrash metal? La question c'était si j'ai un conseil pour les jeunes qui veulent commencer un groupe de thrash metal. Nous n'avons pas assez de temps pour que je puisse donner autant de conseils, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que le plus important, c'est faites attention, ne signez rien tant que vous n'avez pas un avocat qui peut vérifier votre contrat. C'est un vivier de talent dans lequel il y a une tonne de personnes, et en particulier chez les fans de métal, qui ont un niveau émotionnel élevé, qui est tellement plus élevé que chez d'autres musiciens. Et je pense qu'à cause de cela, il y a beaucoup de personnes qui nous ciblent, qui voient le vivier du heavy metal, qui nous voient comme le sel de la terre, mais la plupart du temps, on voit des groupes qui se font abuser, particulièrement dans le heavy metal. Soyez prudents. Salut les gars, j'ai une question pour Dave et Kiko. Comment était votre collaboration quand vous composiez le dernier album ensemble? Et quel rôle aviez-vous dans la composition? Bonjour tout le monde. Pour moi, c'était une grande expérience. Je pense qu'on s'est entendu très bien, très vite. Et ils ont tous été là pour moi. J'ai juste besoin de retrouver le groupe au studio. Et je connaissais déjà Dave, qui avait discuté les idées de la production en amont. J'avais déjà appris la plupart des morceaux, mais on a eu l'occasion de les jouer ensemble. Donc j'ai pu collaborer un peu à trois chansons. En ce qui concerne Dystopia, je me souviens qu'il y avait des préventes de l'album dans un grand package pour les fans, puis une version classique, la version iTunes et des morceaux bonus, et la version japonaise avec des morceaux bonus différents. Est-ce que vous pensez que cela est un peu trop pour les fans qui ont l'album en 4 ou 5 exemplaires différents? Que voyez-vous? Vous voyez ce que je veux dire? Vous nous amenez beaucoup. Et on vous a entendu, alors dites-nous clairement. Vous savez que je ne travaille pas pour le label de disques. Je pense que votre question devrait être adressée aux responsables d'Universal. Pour moi, j'ai vu l'industrie de la musique changer tellement de fois depuis que j'ai commencé que cela était complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Cette technique d'avoir à donner au public japonais un morceau de bonus différent, parce que les labels de disques sont à l'origine de tout, et tout est établi car les Japonais préfèrent avoir des disques importés plutôt que des disques nationaux. Vous devez donner un morceau bonus à ceux qui téléchargent l'album, car ils n'auront pas le disque en réel dans leurs mains. Ou si vous avez quelque chose avec la réalité virtuelle, comme on fait quand on est revenu, vous devez surpasser les attentes. Je suis content que l'on ait l'opportunité de jouer de la musique qui atteigne tous les masses de population. Mais la façon de vendre, ce n'est pas mon boulot. Votre album Dystopia nous peint un monde post-apocalyptique. Pourquoi avez-vous choisi de nous montrer un tel spectacle? Eh bien, si c'était des chiots et des fleurs, est-ce que vous auriez été autant intéressé? Vraiment? J'aimerais savoir si, pour les Américains, c'est quelque chose de spécial de travailler avec un Brésilien et un gars franco-belge. Nous avons juste besoin d'engager un gars asiatique, on aura toutes les langues. Bon, les Australiens parlent anglais, donc je le maîtrise. Tout le monde connaît la chanson « À tout le monde ». Pouvez-vous nous parler de l'histoire derrière l'écriture de cette chanson? C'est une ex-petite amie et je ne vous en dirai pas plus. On a commencé avec moi qui ai posé une question, les paroles et elles-mêmes sont une traduction d'un rêve que j'ai eu. Mais comment ça est arrivé, ça c'est très personnel. Mais ma deuxième question est pour Kiko. Vous ressentez-vous d'être au Hellfest pour la deuxième fois? La première fois, c'était en 2014 avec Angra, et maintenant avec Megadeth. Quel est votre ressentiment? Ah, ça a été génial. Je joue sur les scènes françaises depuis 94-95. J'adore être en France. Donc oui, c'est la deuxième fois. Très excité de revenir sur le Hellfest. Vos albums de 86-90 semblent être le reflet du monde d'aujourd'hui. Est-ce ironique ou triste? Qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui par rapport au monde d'il y a 25-30 ans? Je ne sais pas, parce que si vous lisez les choses que les gens disent à mon sujet, ils disent que ce que j'écris est stupide, mais que ce que j'écris est vraiment dans l'air du temps. Et si j'ai écrit quelque chose en 85 et qui est toujours autant d'actualité aujourd'hui, que ça l'a été à ce moment-là, j'aime à penser alors que c'est probablement pas stupide, mais plutôt un petit peu intelligent. Et pour moi, je ne m'attribue pas de mérite sur ce que j'écris. J'ai lu quelque chose, et je l'ai juste retransmis. Je ne m'attribue pas le mérite de ce que j'ai appris. Quelqu'un d'autre l'a découvert, j'aime lire, j'encourage quiconque, un fan de métal, d'apprendre autant qu'ils le peuvent sur leur pays, leur passion, et que ce soit le sport, hein, si c'est l'ésotérisme, si c'est écrire des fictions, écrire des chansons d'amour. Vous pouvez être un grand groupe de métal et aimer les chansons d'amour, hein, croyez-le ou non. Life to Death était une de mes premières chansons et c'était une chanson d'amour. Merci les gars de votre présence.
We'll be right back.